Clarissa Pinkola Este a dit « L'addiction, c'est tout ce qui vide la vie tout en la faisant paraître meilleure. »
En 2023, en France, 34% des internautes de 15 à 74 ans déclarent au moins un effet néfaste lié à l'usage des écrans dans la vie courante, en dehors des temps d'études ou de travail. Les plus jeunes sont particulièrement concernés, 57% chez les moins de 20 ans.
Tout au long de cette semaine, Radio Ondaine vous propose du lundi au vendredi à 13h un programme sur les addictions. Une série d'émissions avec des professionnels de santé, des acteurs de la prévention, réalisées par Radio Ondaine en studio ou en extérieur et même autour d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information. À retrouver en rediffusion sur le 90.9 FM et sur notre site internet www.radio-ondaine.fr.
L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a mené des entretiens en 2022 et 2024 qui montrent que 3% des 18 à 64 ans consomment régulièrement du cannabis. Mais ce sont les 18 à 24 ans les plus touchés.
Bonjour, nous sommes le 5e B du Collège des Montagnes du Matin de Panissière. Dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias et à l'information animé par Radio Ondaine, nous allons parler des addictions et notamment l'addiction aux écrans.
Nous allons avoir comme invités des représentants de la Maison de Protection des Familles de la Gendarmerie Nationale, Grégory Lavore et Nathalie Dumas, ainsi que l'infirmière du collège, Madame Chidowski.
Mais avant tout, nous allons vous donner la définition de l'addiction selon Wikipédia.
L'addiction ou la dépendance désigne le même phénomène, la dépendance vis-à-vis d'une substance, drogue, tabac, alcool, caféine ou d'une activité, jeu vidéo, jeu d'argent.
Lorsqu'une personne est dépendante, elle a perdu le contrôle sur sa consommation ou son activité.
Elle consomme plus souvent et pendant plus longtemps que ce qu'elle souhaiterait. De même, elle joue plus longtemps, plus souvent que ce qu'elle souhaiterait.
L'addiction aux jeux d'argent. Selon l'INSEE, en 2012, sur 100 personnes qui jouent aux jeux d'argent, 10 sont dépendantes, soit 1,3% de la population adulte. Les hommes sont plus concernés que les femmes. Les joueurs dépendants sont en moyenne plus jeunes et moins aisés que les autres joueurs.
D'après le site, le bon usage des écrans, l'usage problématique des écrans se mesure à ce qu'ils enlèvent dans la vraie vie. Amis, famille, travail. C'est quand tout cela est négligé qu'il faut véritablement s'inquiéter.
Pour compléter cette définition des addictions,
nous sommes allés à la rencontre des élèves et du personnel adulte du Collège des Montagnes du Matin de Panissière
pour leur demander leur propre définition des addictions.
C'est quand on devient addict à quelque chose et qu'on peut pas s'en passer.
On s'attire beaucoup à quelque chose, comme les téléphones.
Être addict à quelque chose, pour moi, c'est une substance qu'on peut plus se passer, en fait.
Alors une addiction, c'est un comportement qui crée une dépendance et une accoutumance.
Alors pour moi, une addiction, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Même si on le voulait, on ne pourrait pas s'en sortir tout seul.
L'addiction, c'est quelque chose dont on peut pas se passer, quelque chose qu'on fait tout le temps.
Quand on peut pas se passer de quelque chose.
Addiction, c'est que quand t'as une addiction, tu peux pas t'en passer, du coup, voilà.
Alors, une addiction, c'est quelque chose qui influence le cerveau des personnes qui en sont victimes de façon à ce qu'elles ne puissent plus s'en passer.
Addiction, c'est ne pas pouvoir se passer de quelque chose.
Pour moi, l'addiction, c'est quelque chose qu'on ne peut plus se passer.
Pour moi, l'addiction, c'est une substance, un objet ou une activité qu'on peut plus s'en passer, en fait.
T'es addict à quelque chose et que tu peux plus t'en passer ?
C'est quand on est dépendant à quelque chose qu'on peut pas s'en passer.
Quand on est vraiment dépendant de quelque chose, c'est qu'on ne peut pas se passer, justement, d'une substance ou d'une activité, malgré toute notre bonne volonté.
Les addictions ne sont pas sans conséquences.
La solitude.
On n'arrive plus à s'en passer, donc on peut dépenser des milliards d'euros juste pour en avoir plus.
Les conséquences, ça peut entraîner des maladies, des dépressions.
Quand on n'en prend pas, on peut avoir mal à la tête.
On se coupe du monde et c'est pas bien. Voilà.
Alors, les conséquences de l'addiction. Donc, l'addiction, vu que ça crée une dépendance, ça veut dire qu'on va toujours avoir envie de recommencer, à refaire quelque chose ou à reprendre quelque chose. Et l'accoutumance, c'est qu'on a envie de le faire plus ou d'en prendre plus. Donc du coup, ben, ça peut nous couper du monde social, si c'est un comportement, ou ça peut provoquer des maladies quand c'est des substances qu'on absorbe en trop grande quantité.
Ça peut nous pourrir la vie.
On est obligé d'y faire, donc si on arrête, ça peut faire du mal au corps.
Bah, les conséquences d'une addiction, si c'est une mauvaise addiction, bah, tu peux en mourir.
C'est une certaine perte de contrôle de soi-même. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes addict, vous dépendez de quelque chose d'autre que votre propre volonté. Et ça vous pousse à faire des choses ou à consommer des choses, que ce soit de la substance ou de l'aliment ou de l'activité. Vous êtes obligé de consommer quelque chose alors que bah, vous n'en avez pas forcément besoin. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'au final, vous n'êtes même plus maître de votre corps ou de vos activités.
L'addiction et la dépendance peuvent avoir plusieurs conséquences. Des conséquences sur la santé, par exemple, comme le fait de trop jouer aux jeux vidéo, hein, qui peut avoir une conséquence sur la croissance d'un enfant, hein, je pense à la télé aussi. Des conséquences aussi sociales, si on s'isole.
Eh ben, ça peut avoir beaucoup de conséquences au niveau de la santé, au niveau du comportement, un mal-être.
Ben, les conséquences, il y en a beaucoup. Alors, pour moi, dans le collège, on est là, nous, pour essayer de faire de la prévention, c'est-à-dire pour dire aux élèves qu'il y a des dangers, par exemple, à toucher à des drogues, qu'il y a des dangers à utiliser des produits qui sont interdits, et qu'il y a des dangers, quelquefois, à trop regarder des écrans ou trop être dépendant des jeux vidéo ou des choses qui vont influencer vos cerveaux, parce que les élèves, vous êtes en formation et vos cerveaux ne sont pas encore des cerveaux adultes et donc ils sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses.
Ça peut nous poser des problèmes de santé et aussi des problèmes de comportement. Par exemple, si on est accro aux jeux vidéo, ça peut nous emmener à nous isoler, à ne plus dormir, etc. Voilà.
Alors, les conséquences peuvent être l'isolement, des problèmes financiers, des problèmes de santé. Voilà.
Tu peux devenir fou, je sais pas.
Pour moi, je trouve que bah, ça peut être dangereux d'avoir une addiction.
On peut se sentir moins bien à faire les choses.
On peut tout oublier, par exemple laisser en péril ses études. Voilà.
Mais connaissons-nous des produits, des comportements qui mènent à la dépendance?
Des produits, ça peut être, par exemple, la cigarette. On peut être addict, enfin, pas quand on est enfant, parce qu'en principe, on n'a pas le droit de fumer. Et c'est quand on se sent pas bien qu'on peut commencer à être addict, parce que du coup, on a l'impression que ça nous fait du bien.
Il y a l'alcool, la drogue et les jeux vidéo. Et du coup, fumer et finir alcoolique, ça peut être nocif.
Les activités qui conduisent à l'addiction, c'est par exemple trop d'écran ou des fois le téléphone portable. On s'aperçoit de plus en plus que les téléphones portables, même chez certains adultes, ça devient une vraie addiction, ils ne peuvent plus s'en passer.
Le sport, la drogue, l'alcool.
Le sport peut être une addiction pour certains aussi.
Les jeux vidéo. Bah, il y a fumer, la drogue, l'alcool, et puis j'en connais pas forcément d'autres.
La cigarette, l'alcool, la drogue, les écrans, le sport.
Alors, l'addiction, on a bien sûr l'addiction au sucre. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte, mais justement, si tous les alimentaires, ils ont rajouté du sucre dans les aliments, c'est bien pour vous rendre addict, pour vous rendre dépendant, et vous donner envie d'en consommer plus, malgré justement que vous n'ayez pas forcément le besoin de manger voilà, toute cette quantité de sucre. Il y a les écrans, et après, bien sûr, il y a toutes les drogues, voilà, qui sont bien sûr qui vous font perdre le contrôle. Il y a aussi la nicotine, la cigarette, pour le coup, qui est une addiction, mais terrible, parce que ça vous bouffe la santé et ça vous fait perdre des années de vie juste pour consommer quelque chose qui, en plus, n'est pas bon pour votre santé.
Autre produit, ça peut être tout ce qui est médicaments. Ça peut être suite à un traitement médicamenteux. On peut après devenir, entre guillemets, accro, comme on dit, à un médicament.
Alors, les produits qui provoquent des addictions, l'alcool, toutes les drogues, le tabac. Et puis, pour les comportements, il y a des addictions aux jeux vidéo, aux écrans, aux jeux d'argent.
Les produits qui peuvent provoquer une addiction, malheureusement, les drogues, la cigarette. Les écrans, pour vous, les petits jeunes, là, qui ne pouvaient pas vous passer de Facebook, Instagram, TikTok. Et de la même manière, citer des activités qui conduisent à l'addiction. Bah, ceux qui font trop de sport, c'est pas bien. Regardez, moi, j'en fais pas, ça se voit. Et voilà.
Alors, les produits, ça peut être l'alcool, la cigarette. Et puis, les activités, le téléphone portable.
La cocaïne, enfin, toutes les drogues, l'alcool. Et en activité, le sport, les jeux vidéo, enfin...
On peut être addict à du sport, à de la drogue, du tabac, on peut à l'alcool.
Bah le téléphone, les jeux vidéo, les médicaments,
le sport, l'alcool, les écrans.
L'addiction aux écrans est un sujet de société. Quels sont nos usages des écrans ?
Je vais de temps en temps sur les réseaux et deux, trois jeux.
Moi, je vais sur Instagram. Après, je joue à beaucoup de jeux, donc voilà.
Et les réseaux sociaux, des jeux.
En tant qu'enseignant, donc la première activité que je fais des écrans, c'est déjà utiliser mon ordinateur pour travailler, pour faire nos recherches, faire nos cours. Et puis, j'utilise mon portable donc, pour communiquer. Et pour regarder des séries.
Alors, mon activité principale, c'est au travail, parce que je suis toute la journée sur l'écran. Après, à la maison, étant donné qu'avec le travail, j'y suis déjà beaucoup, à la maison, j'évite au maximum.
Je fais beaucoup de réseaux sociaux.
Prendre en photo, mon chat.
Mes activités sur les écrans, alors, si on ne compte pas le temps passé au travail. Après, je fais comme tout le monde, je regarde des films, la télé... Un petit peu sur les réseaux, mais pas beaucoup. Je suis déjà plus trop de cette génération.
Moi, malheureusement, je suis obligé de travailler avec des écrans parce qu'on a énormément d'éléments qui sont traités pour la gestion des élèves, pour les absences, pour la gestion des professeurs, tout ça. Et ça se passe tout par informatique. Donc, malheureusement, moi, je suis sur un écran toute la journée. Mais dès que je m'en vais, j'éteins tout et puis je m'en passe volontiers.
Les activités en lien avec les écrans ?
Oui, moi, elles sont essentiellement dues à mon travail. C'est-à-dire que chez moi, je fais vraiment la coupure. J'ai besoin de qu'on me laisse tranquille. Je ne veux plus avoir les écrans face à moi. Voilà, donc chez moi, je regarde très, 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 très peu les écrans, pour ne pas dire pas du tout.
Alors, de mon côté, j'essaie de limiter au maximum le temps d'écran. Ce n'est pas quelque chose qui me motive beaucoup. Moi, je préfère être à l'extérieur, profiter de la nature.
Moi, c'est jouer aux jeux vidéo et regarder des vidéos sur des plateformes de streaming.
Je fais des jeux vidéo, TikTok, tout ce qui est réseaux sociaux.
Envoyer des messages, répondre à des appels.
Soit je regarde un film, soit je fais des jeux vidéo, soit je réponds aux messages.
Mais finalement, combien de temps passe-t-on par jour, par semaine sur nos écrans ?
Par jour, je dirais que je passe 3 heures par jour.
Une heure ?
Par jour, ça va dépendre. Si c'est un jour où j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur, parce que j'ai des heures de libre, je peux y rester 2-3 heures, je pense, sur l'ordinateur, voire plus, parfois. Quand j'utilise mon portable... Parfois, je vais regarder une série pendant une heure, voilà. Mais ça dépend vraiment des jours, donc je ne saurais pas vraiment vous répondre. Mais en moyenne, peut-être une heure par jour.
5 heures par jour ?
J'en ai aucune idée.
Par jour, je dois passer environ 2 heures.
Par jour, je dirais 5 heures.
Alors, le temps passé par jour, parce que par semaine, j'avoue que je n'ai pas calculé, mais par jour, donc une fois de plus, si j'enlève l'ordinateur pour travailler... Je dois y passer, je dois faire une heure sur les réseaux et puis après 3 heures devant la télé.
Évidemment, j'ai un téléphone portable et j'essaye de limiter le plus possible son utilisation les week-ends et puis évidemment pendant les vacances. Et en moyenne, ça doit être peut-être une heure par jour.
Par jour, à peu près 2-3 heures.
1 heure et demie. 6 heures.
Pour information, aujourd'hui, j'ai passé 9 minutes sur mon téléphone depuis ce matin. Et l'application que j'ai le plus utilisée cette semaine, c'est mon application d'échecs. Et en moyenne, je passe 2h52 par jour sur mon téléphone.
Réseau social, écran, honnêtement, vous pouvez vous en passer ?
Non, je pense pas.
Oui, je pense que oui. Il y a d'autres trucs à faire que des écrans. Tu peux aller à l'extérieur, profiter du temps et tout.
Moi, je peux très bien m'en passer. Parce que je fais partie de ces générations où le téléphone portable...
On l'a eu, en tout cas moi j'en ai eu un pour la première fois, j'étais déjà adulte. Je comprends que c'est très difficile pour les jeunes générations comme vous, mais moi je peux très bien m'en passer, il n'y a aucun souci.
M'en passer, je ne pense pas. Après, les réseaux sociaux, non, j'aime pas, donc c'est pas, j'en fais aucun usage. Par contre, c'est vrai que le portable, bah, on a cette, on a le réflexe, hein, ne serait-ce que pour regarder l'heure, vu que j'ai plus de montre. Et bon, bah, si, pour voir si on n'a pas eu un appel, voilà. Donc, honnêtement, je ne pourrais plus m'en passer, non.
Bah, en vrai, je pourrais m'en passer, mais ça, j'aime quand même bien
De certains oui et de certains non, je peux pas m'en passer.
Je peux m'en passer, oui, à part la télé, parce que j'adore regarder la télé, c'est tout.
Donc je peux m'en passer sans problème.
C'est vrai qu'on devient vite addict au téléphone, voilà.
Alors oui, moi je peux me passer des réseaux sociaux parce qu'une heure par jour, c'est plus, c'est pas un besoin. C'est plus, voilà, il y a deux, trois petites choses, ça fait passer le temps, c'est amusant, mais de là à dire un besoin, donc oui, je peux m'en passer, c'est pas un souci.
Alors les réseaux sociaux, oui, je peux m'en passer. J'ai pas été élevée avec ça, mais je peux tout à fait m'en passer, il n'y a pas de souci.
Oui, je peux tout à fait m'en passer. Le téléphone, c'est vrai que je suis plus jeu que réseaux sociaux. Donc ça, peut-être, je joue quand même tout le temps, un petit peu tous les jours. Mais pas longtemps, ça peut être quelques minutes ou plus. Voilà, donc ça, je sais pas. Faudrait que j'essaye de m'en passer pour pouvoir répondre.
Franchement, je pense que je pourrais pas m'en passer.
M'en passer, je pense pas, mais réduire, oui.
Oui. Oui, je peux m'en passer facilement.
Je peux m'en passer, oui.
Sans problème. Après, voilà, les écrans, il y a tout. Dans les écrans, il y a le téléphone portable sur lequel on peut consulter nos comptes bancaires en ligne et on peut également chercher une route et une adresse précise. Donc, à ce moment-là, ça peut être quelque chose de très positif et on en a besoin. Voilà, mais en fait, c'est l'utilisation qui en est faite. C'est pas l'outil en lui-même, c'est l'utilisation qui en est faite. Voilà.
Par exemple, je sais pas, Snapchat, je peux pas m'en passer, par exemple.
En cas de dépendance, d'addiction, savez-vous vers qui vous tournez ?
Tes parents.
Mes parents et des adultes de confiance.
Alors, on peut en parler à son entourage parce qu'ils peuvent nous aider à décrocher un petit peu. Quand c'est des substances comme drogue, tabac, c'est plus compliqué. Là, on peut en parler à son médecin qui va vous aiguiller vers les bonnes personnes puisqu'il y a des centres pour ça. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour parler de ses addictions et pour avoir de l'aide.
Quand un enfant a une addiction à l'écran, aux écrans, pour moi, c'est déjà les personnes qui ont un rôle premier, ce sont les parents. De faire attention à ce que fait notre enfant, mettre une limitation, un contrôle parental. Après, il y a tout ce qui est intervention à l'école aussi, qui peuvent aider. Et puis, après, l'assistante sociale aussi au collège peut avoir un rôle de prévention.
Les psychologues et les adultes.
Alors dans ce cas-là, je conseillerais à cette personne d'aller voir son médecin traitant. Son médecin traitant sera de bons conseils pour savoir vers qui l'orienter.
Aux écrans ?
Oui.
Non, je sais pas du tout.
D'aller chez un médecin ?
Bah oui, nos parents, ils peuvent nous aider à moins aller sur nos écrans. Et après, il faut voir des spécialistes ou un truc comme ça.
Je dirais peut-être une psychologue qui pourrait t'aider.
Faut pas hésiter déjà à en parler à son propre médecin. Voilà. Si après le médecin se sent pas qualifié, faut absolument pas hésiter à aller voir un psychologue pour pouvoir non seulement soigner ses addictions, mais aussi soigner, on va dire, tout notre tracas du quotidien. Éviter d'avoir quelque chose qui nous ronge à l'intérieur.
Un médecin,
Un addictologue, des personnes comme ça.
Soprano dans mon précieux dit du téléphone portable. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Il ajoute, je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard pixelisé m'a envoûté.
D'après l'Alliance contre le tabac, 15% des adolescents ont déjà utilisé la puff. Parmi eux, 47% ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce dispositif parce qu'elle est facile d'accès. Les rechargeables sont toujours en vente.
Rencontre à présent avec les gendarmes de la maison de protection des familles.
À présent, nous allons rencontrer Madame Dumas et Monsieur Lavore de la maison de la protection de la famille, de la gendarmerie nationale. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc moi je suis l'adjudante chef d'Uma Nathalie de la maison de protection des familles d'Andrézieux-Boutéon.
Bonjour, moi je suis l'adjudant Grégory Lavore de la maison de protection des familles également.
Qu'est-ce que la maison de protection des familles ?
Alors du coup c'est une unité de la gendarmerie nationale qui a implanté Andrézieux-Boutéon et qui a plusieurs missions. La première ça va être une mission de prévention auprès des établissements scolaires. Et ensuite, la deuxième, on va procéder aux auditions des mineurs victimes de tout ce qui est infraction à caractère sexuel et également les mineurs victimes de violences au sein de la famille.
Pourquoi faites-vous ce métier ?
Principalement parce que justement, on intervient auprès des enfants et on parle avec eux et puis pouvoir intervenir pour faire de la prévention. Et puis j'ai l'impression de les écouter quand ils me parlent de ce qui leur est arrivé. Et ben, j'ai l'impression de les aider. Donc voilà pourquoi j'adore ça.
Bah également pour les mêmes raisons, mais aussi pour pouvoir à un moment donné intervenir lorsque les enfants ont des problèmes et peut-être faire cesser les choses et trouver des solutions pour aider les enfants, les placer, peut-être les sortir aussi de l'endroit où ça se passe et avoir vraiment un travail qui puisse porter à l'extérieur aussi.
Que faites-vous dans votre quotidien ? Quelle est votre journée type ?
Alors de journée type, on n'en a pas réellement. Puisqu'on va être quand même assujetti à l'événement par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Si on a eu connaissance de faits concernant les enfants, notamment de la maltraitance ou des violences sexuelles, on va adapter notre service par rapport à l'événement, d'accord ? Mais par contre, on peut quand même planifier nos interventions au sein des établissements ou également des soirées pour les adultes. Mais une journée type, il n'y en a pas réellement.
Quelle est votre définition de l'addiction ?
Très très bonne question. Alors la définition exacte de l'addiction, en fait, ça fait plus une triade. En fait, il y a trois trucs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le craving. C'est un anglicisme. Ça veut dire que on a un besoin irrésistible d'un produit, de consommer un produit. La deuxième, en fait, c'est la tolérance à ce produit. Donc on commence à avoir une surconsommation d'un produit ou d'un comportement. Soit c'est une drogue, soit c'est les écrans, les trucs comme ça. Et la troisième chose qu'il faut, c'est ce qu'on appelle des troubles suite à l'arrêt du sevrage. D'accord ? Ça peut être de l'anxiété, ça peut être plein d'autres choses.
Quelles sont les addictions les plus courantes, les plus dangereuses pour les collégiens ?
Les addictions les plus dangereuses et les plus courantes pour les collégiens ? Ça peut être les addictions à différentes drogues, ça peut être le tabac, l'alcool un petit peu moins pour les collégiens. Peut-être c'est un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en addiction pour les enfants, pour les collégiens ? Les jeux vidéo, effectivement, ouais, ça peut arriver. Les jeux vidéo.
Ou peut-être l'usage un peu abusif des réseaux sociaux. Peut-être de ne pas pouvoir décrocher, d'être peut-être très longtemps sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Tout comme un adulte peut l'être aussi. Parce que c'est pas... Ce qu'on vous dit pour les collégiens s'applique également aux adultes.
Quelles sont les causes des addictions ?
Il peut y avoir plein de causes pour tomber dans l'addiction. Ça peut être lié à la personne, à son environnement social, à comment est-ce qu'il a été éduqué. Ça peut être, il peut y avoir plein de causes, multifactorielles.
Pourquoi la gendarmerie nationale intervient-elle dans les établissements scolaires ? Depuis combien de temps la maison de protection des familles intervient-elle dans les établissements scolaires ?
Alors, je vais déjà répondre à la deuxième question. Auparavant, la maison de protection des familles s'appelait la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Il faut savoir qu'elle a été créée fin 1999 dans la Loire. Donc du coup, c'est à partir de 2000, l'année 2000, qu'on est intervenu au sein des établissements scolaires. Donc ça fait aujourd'hui plus de 24 ans, d'accord, qu'on intervient. Et pourquoi ? Mais parce qu'on estime que la prévention, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, et dès le plus jeune âge. Donc pour vous donner un exemple, lorsque la brigade de prévention de la délinquance juvénile a été créée, on intervenait au niveau des classes de CM2, 6e, pour le passage en 6e, à la demande des établissements scolaires. Et au jour d'aujourd'hui, on est quand même sollicité de plus en plus tôt. Ça veut dire que de plus en plus tôt, on va nous demander d'intervenir, parce qu'on se dit que la prévention se fait de plus en plus tôt et que peut-être les enfants ont besoin aussi de rencontrer le gendarme et de pouvoir voir le gendarme aussi dans ce rôle de prévention et non pas de répression. Parce que c'est vrai qu'on a tendance de voir le gendarme au bord de la route qui va sanctionner, Mais le gendarme qui va rentrer dans l'école ou dans les établissements scolaires, c'est le gendarme qui va prévenir. Du coup, ça va permettre de tisser un lien, de nous rencontrer aussi dans une autre mission et de pouvoir échanger. Parce que le but de la prévention, c'est pas de venir vous faire la morale, mais c'est de pouvoir échanger avec vous et vous faire trouver aussi des réponses à des choses et travailler avec vous sur le sujet.
Quels sont les outils qui vous permettent d'intervenir auprès des élèves ?
Principalement, on fait des PowerPoint qu'on présente aux élèves avec des mots-clés ou des phrases choc. Et après, on discute avec les élèves de ça et puis de ce qui est des mots qui sont marqués ou des phrases choc qui sont marquées. Et après, on essaye de les déconstruire avec les élèves et de temps en temps des vidéos. Alors, par exemple, on a... Pour ce qui est de l'alcool, par exemple, c'est difficile de faire de la fête sans alcool. Donc ça, après, avec les élèves, et ben, on essaie de déconstruire ça. Ils essaient de me dire, ben, non, finalement, c'est facile, on peut faire la fête sans alcool. Il y a ce genre de phrase, il y a la chicha est moins dangereuse que la cigarette. Tout ce genre de phrases comme ça, là.
Pourquoi les établissements scolaires font-ils appel à vous ?
Je pense qu'en fait, c'est lié à un partenariat hein, qui est fait depuis de nombreuses années avec tous les établissements scolaires de la Loire, hein, mais dans les autres départements également. Donc, du fait de se connaître déjà depuis très longtemps, ben, ça va être un travail qui se refait d'année en année. Et ça permet aussi d'ouvrir les portes des établissements scolaires et de, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de voir du gendarme dans l'établissement scolaire, tisser des liens et également peut-être permettre à des collégiens ou des enfants, lorsqu'ils voient le gendarme, de dire bah là, je peux peut-être aller le rencontrer, peut-être lui dire des choses qui se passent chez moi ou des choses que moi j'ai vécues. Et ça permet aussi des fois d'avoir des retours au niveau des enquêtes et l'enfant va se confier à nous.
Sur quel thème les établissements scolaires font-ils appel à vous ?
Alors, des termes divers et variés. Hein. Donc, sur les violences en général, quels sont les types de violences ? Ces dernières années, une augmentation quant à la demande concernant le harcèlement et le cyberharcèlement. Également, le bon usage des réseaux sociaux, un petit peu la justice des mineurs. Et à la fin du cycle collège, donc 4e, 3e et plus particulièrement les 3e, et au niveau des lycéens, tout ce qui est addiction.
Comment définiriez-vous l'addiction aux écrans ?
Pour être réellement précis, il n'y a pas d'addiction aux écrans. Le consensus scientifique pour l'instant dit qu'il n'y a pas d'addiction aux écrans. Il y a des mauvais usages, voire de la surconsommation aux écrans, mais il n'y a pas d'addiction aux écrans. Par contre, effectivement, il y a la surconsommation, mauvais usage, trop d'écrans. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'addiction. Addiction aux jeux vidéo, c'est une maladie. Addiction aux écrans, pour l'instant, ça n'existe pas. Surconsommation ou mauvais usage.
Exemple par rapport à ce que vient de dire Grégory, au niveau de l'addiction aux jeux vidéo, il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui a été reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé et qui a dit que les jeux vidéo sont une addiction.
Comment éviter les addictions aux écrans et plus généralement les addictions ?
Alors, comment éviter les addictions aux écrans, on va dire qu'on va l'accepter. Il y a plusieurs solutions. La première déjà, c'est se dire que c'est pas parce qu'on a un écran, pas parce qu'on a quelque chose qui est principalement le téléphone, qu'on a sur nous, qui nous permet d'être joignable, qu'on est forcément joignable. Deuxième chose, le laisser de côté quand on fait une activité. Quand on est en famille, le laisser de côté et puis faire d'autres choses, des jeux de société, faire des choses en famille, des sorties, des activités physiques.
Peut-être continuer à voir vos amis, continuer à vous retrouver physiquement et non pas que par le biais des écrans, communiquer mais de façon réelle, c'est-à-dire continuer à sortir, continuer à pratiquer peut-être aussi des activités sportives et autres, plutôt que de rester toujours derrière l'écran.
Quelles sont les conséquences des addictions et plus particulièrement des addictions aux écrans ?
Il y a plusieurs conséquences. Pour les petits-petits, vraiment petits-enfants, il y aura des retards de développement du langage, des cognitions, parce que ça peut retarder ça, d'attention, d'isolement. De plus, on s'est rendu compte que, les scientifiques se sont rendus compte que le fait d'utiliser beaucoup d'écrans, les personnes mangent plus de cochonneries, hein, tout ce qui est snacking, tout ce qui est soda, on en consomme plus, donc on prend plus de poids, donc il y a moins d'activité physique, une baisse de la santé mentale, Voilà, c'est les principales conséquences. L'isolement, la perte de communication, donc sont des conséquences. Ouais.
Quelles sont les addictions pour les collégiens ?
Alors, principalement au collège, donc on va dire un petit peu tabac et surtout puff. Ça, c'est vraiment le gros fléau actuel. On s'est rendu compte que la puff, c'était quelque chose qui touchait plus les collégiens et début collège, donc 6e, 5e. Et on s'est rendu compte que ces collégiens-là, quand ils commencent à toucher à la puff, finissent après, en règle générale, 4e, 3e, voire même 2e, à basculer directement sur la vraie cigarette, à fumer une vraie cigarette. Et après, bon, ça engendre d'autres problèmes. Donc ça, c'est la puff est vraiment un très gros, très, très gros problème d'addiction pour les collégiens. Alors, puff, c'est la même chose qu'une cigarette électronique, sauf que c'est à usage unique. C'est-à-dire qu'une fois que la puff est finie, donc, elle est jetée et puis on en achète une autre. Il y en existe de plein de sortes différentes. Et ce qui est attractif pour les jeunes, c'est que vous avez des goûts qui sont tellement divers et variés. Vous avez, je sais pas, Haribo, vous avez des goûts de folie, quoi. Donc, effectivement, ça attire les jeunes. Ça sent bon. On n'a pas trop l'impression de fumer une cigarette, sauf que on sait que ça a des conséquences extrêmement graves pour la santé.
Alors, je fais une petite parenthèse, mais je me permets d'aller sur les jeux d'argent et de hasard aussi. On se rend compte que beaucoup de mineurs parient, alors que c'est interdit, et que là, on a un autre souci, c'est celui de la subordination à un adulte, jeune adulte, qui va récolter et empocher les gains en prenant une petite partie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est fréquent aujourd'hui ?
Les jeux d'argent, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on... Alors nous, on le voit pas trop parce qu'on n'intervient pas trop là-dessus, sur les jeux d'argent et de hasard. Mais effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui parient. Après, ça, c'est un peu une des questions qui avait été posée. Comment on devient addict à quelque chose ? Eh ben, les jeux d'argent et de hasard, principalement, c'est fait parce qu'on voit papa, maman... parier, donc, et qu'on voit de moment, ils gagnent. Donc, ce qui fait que les enfants disent, tiens, je peux tenter. C'est devant un écran. L'écran n'arrive pas à nous dire, non, t'es mineur, donc t'as pas le droit. Donc, effectivement, c'est un problème. Ouais.
Quel est, selon vous, le bon usage des écrans pour les collégiens ?
Il y a une règle d'or qui dit, je fais tout ce que j'ai à faire, ensuite, je fais des écrans. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi ? Les devoirs. Si j'ai une activité physique, je fais mon activité physique. Et après, une fois que j'ai du temps qui me reste, je fais des écrans. Mais je fais des écrans, j'en parle à papa et maman. Qu'est-ce que je regarde ? Je leur montre. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est pour mon âge ? Est-ce que ça me correspond ? Si jamais je vois des choses qui sont un petit peu choquantes, j'en parle à papa et maman. Et jamais je suis seul quand je suis devant mon écran. J'ai toujours un adulte à porter, pas loin de moi. Voilà à peu près ce qu'on pourrait dire sur un bon usage des écrans.
Quel message principal souhaiteriez-vous faire passer aux élèves sur la dépendance et plus particulièrement sur la dépendance aux écrans ?
Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas interdire les écrans, il ne faut pas tout supprimer parce qu'on est en 2024, donc la technologie est avec nous, on en a besoin. Ce que j'aimerais faire passer, c'est soyez prudents. Tout ce qui est information personnelle à jamais divulguer à n'importe qui sur Internet. Jamais. Il n'y a pas à se poser de questions. Information personnelle, jamais on les divulgue.
Alors moi, je dirais que vous êtes né avec les écrans. Vous avez grandi avec cela. Vous maîtrisez ou vous... croyez maîtriser en fait l'utilisation et simplement par rapport à ce que vous y faites, comme a dit Grégory, toujours des choses adaptées pour vous et vraiment en parler quand vous voyez des choses qui peuvent vous choquer. Parce que des fois, on a l'impression que parce que vous voyez des choses qu'on vous a interdites, vous allez vous renfermer, vous allez prendre peur et vous allez rien dire, mais au contraire. Il faut en parler tout de suite parce que peut-être que vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous avez discuté ou avec qui vous avez pu communiquer et ces gens-là savent aussi comment faire pour continuer à discuter avec vous et vous allez pouvoir leur donner peut-être des informations personnelles. Donc justement par rapport à ça, ne pas faire confiance à tout le monde, essayer de naviguer ou du moins d'échanger avec des camarades ou avec des personnes que vous identifiez et que vous connaissez mais ne pas faire confiance à tout le monde. Voilà.
Alors, moi, je réinterviens à nouveau. Effectivement, vous venez de le dire, c'est une génération qui est née avec ses écrans, avec ses outils, avec ce smartphone. Et si l'on en vient au début de l'intervention sur le rôle de la maison de protection des familles, c'est aussi ce harcèlement qui peut être généré par cet outil-là, le téléphone, où on se rend plus compte de la portée que peut avoir un message envoyé à un copain, mais lui a aussi d'autres copains et ils peuvent en fait répéter ce message, ces moqueries, et on en vient sur ce phénomène de harcèlement. On le sait, ça augmente, c'est très très fréquent. De grandes campagnes sont proposées autour de ça. On voit même devant le CDI ici des panneaux d'affichage autour du harcèlement. Le phénomène là de harcèlement, sans qu'il soit voulu au départ, quel est-il ? Comment vous arrivez à le définir sur cette succession de messages, etc., pour sensibiliser un peu nos auditeurs et puis les élèves ?
Oui. Alors, quand vous êtes derrière votre écran, il faut surtout pas vous imaginer que vous pouvez vous permettre de tout faire. C'est comme dans la vraie vie. Je veux dire, à partir du moment où vous allez pouvoir communiquer, échanger derrière un écran, vous dire que on respecte la loi, on respecte les interdits et on ne se permet pas des choses qui sont contraires à tout cela. Il peut y avoir, et là vous êtes dans l'adolescence, il peut y avoir des soucis entre vous. Vous avez le droit de ne pas aimer tout le monde ou être d'accord avec tout le monde, mais vous n'avez surtout pas le droit de faire courir des bruits, de faire courir des insultes, de faire du mal à vos camarades, ni dans la vraie vie, ni sur les réseaux sociaux. Et la difficulté et le démarrage est souvent par rapport à une personne qui appartient à un groupe, sur un réseau social ou autre, qui va mettre une insulte ou une moquerie, et qu'en fin de compte, comme on est tous derrière et qu'il suffit qu'on ait peut-être aussi les mêmes pensées que la personne qui l'a écrit, de dire ben moi je like, moi je suis d'accord avec, moi j'aime. Attention, un like, un j'aime, c'est je suis d'accord avec. Alors je suis d'accord avec une bonne chose, moi ça me pose pas de problème, mais je suis d'accord avec une rumeur ou avec des mots qui rabaissent ou qui insultent la personne, non, parce qu'on est quand même contre la loi, enfin du moins on n'applique pas les bonnes choses, et vous dire que à l'âge que vous avez, ben vous pouvez être entendu par les gendarmes lors d'une enquête judiciaire ou même par d'autres personnes, parce que vous êtes responsable de ce que vous faites. Et vous dire que, comme dans la vraie vie, sauf que dans la vraie vie, ça se passe peut-être entre deux personnes. Là, malheureusement, il y a plusieurs autres personnes. Mais ces personnes-là, de toute façon, c'est écrit. Tous vos échanges, en fait, qui se font sur les réseaux sociaux vont laisser des traces, vont laisser des marques. Et à partir du moment où la victime déposera plainte ou les victimes, vous pourrez être entendu. Donc, vous mettre quand même en face de vos propres responsabilités, vous dire, mais voilà, je ne suis pas, je ne vais pas suivre quelqu'un et je ne vais pas faire du mal par ces réseaux parce que ça prend une ampleur très très rapide.
Vers qui peut-on se tourner quand on se sent dépendant à quelque chose, un produit, un comportement ?
Alors, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à la personne. Et la première chose, il y a, en général, dans des collèges, des lycées, il y a des infirmières qui sont là. Après, il y a d'autres structures, comme par exemple la Maison des Ados, qui se trouve, il y en a une à Saint-Étienne, une sur le Rouennais, qui, eux, accueillent gratuitement et anonymement soit le mineur qui a des problèmes, soit un entourage, des amis, de la famille, pour expliquer. Il y a d'autres associations encore. Il y a les CJC, donc Centre de Jeunes Consommateurs. Et après, il y a encore d'autres structures. Sinon, il y a, pour ce qui est des addictions, il y a un site qui s'appelle Addict Aid. Et vous avez dessus tout un questionnaire sur différents, donc soit sur le tabac, sur les écrans, la surconsommation, sur les jeux vidéo, sur l'alcool, sur tout un tas de conduites addictives. Vous avez différents questionnaires et vous répondez. Et après, la personne peut savoir si elle est dans une addiction sévère, faible et tout ça. Déjà, ça peut être un premier moyen. Et après, il y a plein d'autres structures qui existent, celles que j'ai citées juste avant.
Et puis, par rapport à ce qu'on a pu parler tout à l'heure au niveau du harcèlement, il faut savoir qu'il existe aussi sur Internet des sites dédiés au harcèlement où vous pouvez vous-même, c'est anonyme, c'est gratuit, c'est ouvert 24/24. Il y a le 30/18 qui est super important. Celui-là vous permet de signaler tout fait. Et également au niveau de la gendarmerie et de la police, donc il y a masécurité.fr et plein d'autres sites. Du moment où vous allez taper harcèlement, vous allez voir, il existe plein d'endroits que vous pouvez, où vous pouvez vous connecter.
Merci Madame Dumas et Monsieur Lavore d'être venus nous voir. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
Par rapport au sujet d'aujourd'hui, non, mais en tout cas, enfin, je vais parler au nom de nous deux, hein. Bah, vous remercier, hein, par rapport à cet échange, hein, puisque c'est une première pour nous, en tout cas. J'espère qu'on vous aura apporté les réponses que vous attendiez. Et puis, bah, comme on approche des vacances, nous, on voulait vous souhaiter, bah, de joyeuses vacances de fin d'année et puis une bonne nouvelle année pour 2025. Que vous continuiez bien cette année scolaire. Voilà.
Tu as trop peur d'être séparé de ton téléphone ou de rater une information sur celui-ci? Alors, la nomophobie te guette.
D'après le ministère des Solidarités, depuis les années 2000, 84% des enfants de 2 ans regardent la télé au moins une fois par semaine. Entre 3 et 17 ans, la moyenne de temps passé devant les écrans est de 3 heures par jour en France.
Stromae chante dans Carmen. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'assilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Nous allons terminer cette émission autour des addictions avec Madame Chizdowski, infirmière au collège des Montagnes du Matin de Panissière. Bonjour, quel est le rôle d'un infirmier ou d'une infirmière scolaire dans un collège ?
Bonjour à tous. Alors, au niveau du rôle de l'infirmière scolaire au sein du collège, vous avez pu un petit peu le constater depuis le mois de septembre. Donc, le rôle d'une infirmière, c'est vraiment de vous accueillir quand vous vous sentez pas bien, quand il y a un petit souci, que vous, voilà, physiquement, vous pouvez être douloureux ou avoir quelque chose qui fait que c'est compliqué de poursuivre sa journée au sein du collège. Donc dans ces cas-là, vous venez de manière spontanée à l'infirmerie. Et puis, bien sûr, je suis là aussi pour que vous vous sentiez bien au sein du collège, en lien avec tous les professionnels qui sont autour de vous dans le collège, pour que votre scolarité se passe au mieux et que vous ayez envie de venir au collège et de passer des bons moments au collège.
Comment définirez-vous l'addiction ?
Alors, donc, une addiction, c'est du coup une dépendance par rapport à un produit ou par rapport à un objet pour lequel, du coup, quand on n'a pas ce produit ou cet objet, on n'est pas bien. Et donc, quand la personne est en manque par rapport à son objet addictif, au contraire, elle va être du coup très mal à l'aise et pas bien même physiquement, parce que voilà, ce quelque chose lui manque.
Est-ce que l'addiction est considérée comme une maladie ?
Alors, question un peu compliquée, hein ? Qu'est-ce que, voilà, définition de la maladie. Donc, je dirais que, voilà, tout comme une maladie, en fait, cette addiction, elle a besoin d'être prise en charge. Elle a besoin d'être décelée pour qu'on puisse, du coup, accompagner l'élève en question pour arriver, du coup, à s'en passer. Donc, c'est quand même un petit peu, pour moi, un peu similaire à une maladie.
Est-ce que les élèves peuvent venir vous voir s'ils prennent conscience de leur addiction ?
Oui, bien sûr. Donc l'infirmerie, c'est un lieu, voilà, où on peut venir en parler. Donc vous pouvez venir du coup me voir de manière spontanée à l'infirmerie. Donc c'est quelque chose que, voilà, qui est possible à chacun d'entre vous. Donc soit de venir spontanément alors que vous n'avez pas d'autres symptômes, on va dire, pour venir à l'infirmerie, ou alors quelquefois c'est par le biais de je me sens pas très bien, j'ai un petit peu mal à la tête ou mal au ventre, et en fait en échangeant et en discutant avec vous, finalement ce mal au ventre ou ce petit mal de tête, il cache d'autres choses. Et c'est à ce moment-là, du coup, que vous pouvez être amené aussi à m'en parler.
Quelles sont les addictions au collège ?
Alors, c'est vrai que du coup, il y a différentes addictions. Celle qui me vient en premier, c'est vraiment l'addiction aux écrans. Parce qu'on le voit au sein du collège, mais aussi en fait dans les écoles primaires également, où j'interviens, parce que tout à l'heure on parlait aussi du rôle de l'infirmière au sein du collège. Vous savez que tous les jours, je suis pas forcément tous les jours au collège, mais je vais également dans les écoles du secteur en primaire, et je suis amenée aussi à rencontrer des élèves qui sont plus petits et qui ont déjà aussi un peu cette problématique déjà, en étant même beaucoup plus petits que vous. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment l'addiction principale, mais aussi à toutes les addictions, parfois autour des produits. Hein. Donc ça peut être le tabac ou différentes sortes de produits. Ça peut être l'alcool. Ça peut être aussi une consommation, enfin une addiction autour des jeux, autour des réseaux. Mais bon, ceux-là, ils sont aussi tous en lien avec l'addiction aux écrans.
Quelles sont les conséquences de la surconsommation aux écrans pour les élèves au collège ?
Alors les conséquences, elles sont multiples. Je dirais que dans un premier temps, ce qui me revient très souvent au sein de l'infirmerie, dans un premier temps, c'est plutôt les conséquences par rapport au sommeil. C'est souvent, en échangeant avec vous, que parfois le premier trouble qui peut arriver, en tout cas, c'est des troubles au niveau de l'endormissement. Donc c'est des choses auxquelles on échange beaucoup. Des problèmes de sommeil, ça peut être aussi également des problèmes autour du surpoids. Parce que c'est vrai, quand on passe énormément de temps sur les écrans, du coup, on va beaucoup moins aller à l'extérieur, faire moins de sport, faire moins d'activités aussi en extérieur, être aussi moins en lien avec ses amis, ses camarades. Les autres conséquences peuvent être aussi des conséquences d'ordre visuel, parce que c'est constaté, une surconsommation des écrans entraîne aussi en fait des problèmes au niveau des yeux. Donc c'est très délétère pour la vision de surconsommer les écrans. Hein. On parle de lumière bleue, donc la lumière bleue est très toxique pour les yeux et ça a forcément des conséquences ensuite. Donc ça, c'est à prendre en compte. Alors parfois, la surconsommation aussi peut entraîner un isolement. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être aussi une des conséquences. Il peut y avoir aussi des cas de harcèlement par le biais des écrans. Donc c'est aussi à faire attention. Alors c'est vrai que du coup au niveau de l'adolescence, parfois ça peut être aussi source de conflits très importants au sein de la famille. Alors c'est vrai que l'adolescence, ça reste une période aussi un peu cruciale où ça peut parfois être compliqué la relation parent-enfant. Et c'est vrai que les écrans peuvent aussi entraîner vraiment des conflits qui peuvent être très importants au sein de la famille. Alors, l'addiction aux écrans peut également, du coup, avoir des conséquences, en fait, par rapport à la scolarisation, par rapport aux capacités de concentration. Il a été avéré, hein, ça a été constaté, que, voilà, le fait de regarder la télévision, alors c'est pareil, hein, c'est pas quelques minutes, mais de manière régulière, importante, et en particulier le matin avant de venir à l'école, a des conséquences sur les capacités des élèves en fait à se concentrer en cours et à être dans une attitude d'élève et d'apprenant en fait. Donc ça a été démontré.
Comment sensibilisez-vous les élèves sur le sujet des dépendances ?
Alors nos actions de prévention font partie intégrante de notre rôle en tant qu'infirmière au sein du collège. Donc au quotidien, Quand vous venez de manière individuelle à l'infirmerie, c'est des choses pour lequel on peut être amené à beaucoup échanger ensemble. Donc voilà, donc de manière individuelle, et puis ensuite de manière collective, on peut réfléchir dans l'enceinte de l'établissement. Il y a déjà des actions qui sont mises en place, hein, mais du coup on réfléchit suivant voilà des problématiques que pouvait être amené à rencontrer, et ben de se fixer des temps de prévention avec différents partenaires ou avec les compétences qu'ont chacun des professionnels qui travaillent au sein du collège pour vous informer et pour prévenir tous ces sujets de surconsommation.
Que faites-vous quand un élève vous dit qu'il a peut-être une addiction ?
Et ben dans un premier temps, je vais l'écouter parce que l'écoute, c'est le premier outil indispensable au sein de l'infirmerie. Donc je vais l'écouter. Alors être dans une attitude de non-jugement, hein. On n'est pas là pour dire ah ben non, faut pas faire ça. Donc c'est vraiment voilà échanger avec l'élève. Et déjà s'il arrive du coup à en parler, ça veut dire que déjà il en a pris conscience. Et du coup, quand c'est déjà l'élève lui-même qui vient, ça veut dire que ben peut-être que c'est ses camarades, ses amis qui lui en ont parlé, ou peut-être que du coup il y a eu une remarque d'un professeur ou une remarque peut-être d'un de ses parents. Et le fait voilà de pouvoir échanger autour de ça, ça va nous permettre de pouvoir évaluer si du coup on est vraiment sur une surconsommation. Ou si c'est momentané, mais voilà. Donc c'est important de réfléchir ensemble à ça. Et puis bah je travaille pas de manière isolée, donc du coup je peux aussi solliciter des professionnels qui sont autour de moi pour aussi les inciter peut-être à aller les rencontrer. Donc, je travaille beaucoup en lien avec l'assistante sociale qui travaille au sein du collège et également la psychologue de l'éducation nationale. Donc, on est amené parfois à rencontrer les élèves voilà, tout ensemble. Parfois, on a fait des rendez-vous toutes les trois ou parfois à deux parce qu'on est complémentaires et on a toutes l'optique que vous vous sentiez bien au collège et qu'on puisse vous accompagner. Et parfois, c'est vrai que ça dépasse nos compétences. Donc, on est amené aussi à orienter sur des structures qui peuvent exister aussi autour.
Est-ce que vous avez eu beaucoup de cas d'addiction dans ce collège pour l'instant ?
Alors, moi, je suis arrivée récemment sur le collège. Hein. Je suis auprès de vous depuis le mois de septembre. Alors du coup, j'ai pu rencontrer pas mal d'élèves avec une surconsommation au niveau des écrans. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Après, pour l'instant, tout ce qui est tabac n'a pas été forcément repéré ou on n'a pas encore parlé de manière directe. Mais voilà, il peut y avoir aussi des consommations d'alcool pour lesquelles du coup j'ai été sollicitée.
Est-ce que c'est déjà arrivé que ce soit des parents d'élèves qui vous informent des addictions de leur enfant ?
Alors pour l'instant, c'est vrai que pour moi, c'est plus les élèves qui m'ont interpellée ou parfois même des professeurs ou des AESH. Et pour l'instant, j'ai pas eu de parents qui m'ont contactée directement par rapport à cette problématique.
Comment faire prendre conscience à un élève qui est dans un comportement à risque ?
Alors je pense que du coup c'est important qu'il se rende compte de sa propre consommation. Donc je pense que la première des phases est de lui en faire prendre conscience et du coup de pouvoir évaluer si c'est par exemple par rapport aux écrans, de pouvoir évaluer avec lui le temps qui passe sur ces écrans. Et arriver à faire quelque chose, alors peut-être construire un outil pour visualiser ce temps passé, en fait, si c'est les écrans, sur les écrans. Et le fait de visualiser, c'est déjà un petit peu commencer à en prendre conscience. Parce que souvent, Souvent, on me dit « Oh mais non, mais c'est pas beaucoup. » Et quand je pose des questions pour savoir de manière un peu plus précise, finalement, ça fait un bon nombre d'heures. Donc la première des choses, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut voir en premier. Et puis après, réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui aurait pu être fait si on n'avait pas fait cette activité-là, par exemple. Et du coup, l'élève peut être amené à se rendre compte que il a passé tout ce temps sur ses écrans. Et il a moins vu ses copains. Il a aussi peut-être moins fait d'activités sportives. Et puis peut-être qu'il a moins été en lien avec ses frères et sœurs aussi au sein de la famille. Et qu'il est passé un peu à côté de certains moments qui sont des moments conviviaux.
Est-ce que des fois, il y a un élève qui ne savait pas qu'il était addict à quelque chose et il ne s'en est pas rendu compte et vous vous êtes rendu compte et vous avez fait quelque chose ou pas donc ?
Alors, c'est vrai que parfois, vous ne vous en rendez pas compte. Hein. Donc, le fait d'échanger, de discuter avec vous et puis de le réaborder après. Parce que ce n'est pas en une seule fois que le message que je vais vous faire passer, il va passer. Donc, j'en discute une première fois avec vous. Et puis, après, ça vous fait un petit peu réfléchir. Et puis, après, on se revoit. Et puis, du coup, vous y avez un peu réfléchi. Et là, du coup, on approfondit un petit peu plus. Mais ce n'est pas non plus magique. Et ça ne se fait pas en un clin d'œil, en fait.
Pour vous, quelle est l'addiction la plus dangereuse pour un collégien ?
Pour moi, ça serait l'addiction aux écrans. Après, c'est vrai que je suis très sensibilisée sur ce thème. Mais c'est vrai qu'on peut pas, on ne peut pas vivre sans les écrans, hein, c'est certain. On est beaucoup sollicité hein, dans la vie au quotidien, même en tant qu'adulte. Mais c'est vrai que du coup, il y a toute la problématique des réseaux. Et ça peut avoir des conséquences très délétères. Parce que parfois des personnes peuvent être amenées à communiquer, à dire des choses vraiment malsaines sur quelqu'un, parce que il y a cette barrière, il y a les écrans, et c'est par le biais des écrans qu'ils vont le faire. Ils le feraient pas forcément en direct, et en fait ça a des conséquences qui peuvent être gravissimes. Donc pour moi c'est celle-ci qui est vraiment la plus importante.
Y a-t-il un lien entre le mal-être et la dépendance ?
Alors, je dirais que la dépendance, automatiquement, elle va entraîner un mal-être si justement on n'a pas l'objet pour lequel on est addict. Mais c'est vrai que je dirais aussi que quand on se sent pas bien, quand on est mal à l'aise, qu'on se sent pas bien dans ses baskets, qu'il y a un souci. Parfois, en fait, certains élèves, certains collégiens, certains lycéens vont aller trouver en fait une réponse ils vont ressentir un bien-être par le biais d'addiction. Et là, du coup, c'est là que ça devient problématique parce que ça va leur faire du bien, mais sauf que c'est très délétère et que ça a des conséquences qui sont gravissimes si on n'est pas accompagné pour justement stopper cette addiction.
Quelle solution ou quel conseil proposez-vous en cas de dépendance aux écrans ?
Alors les solutions, c'est déjà d'arriver à en discuter avec l'élève. Et après, ça va être d'essayer, du coup, de, comme je disais tout à l'heure, de quantifier pour pouvoir visualiser ce temps passé aux écrans. Et ensuite, ça va être d'essayer de trouver ensemble des solutions. Donc, dans un premier temps, ça va être d'essayer de réduire ce temps-là, réduire ce temps passé sur les écrans. Donc, ça va être de fixer des limites. Et de se dire, de fixer des horaires en fait où c'est possible, parce que bien sûr on peut pas, je le disais tout à l'heure, hein, on ne peut pas non plus stopper tous les écrans, mais c'est cette surconsommation qui est dangereuse. Donc c'est d'arriver à avoir un petit peu d'écran mais sans que ça soit trop délétère. Donc après, je pense que c'est important, et ça j'essaye au maximum de le faire, c'est de vous accompagner, mais aussi d'inclure vos parents. Parce que, alors c'est toujours dans vos avec votre accord, mais du coup c'est hyper important aussi que vous soyez aussi accompagné à la maison. Parce que les écrans, on en parle au collège, mais bien sûr c'est à la maison aussi. Donc du coup c'est arrivé aussi à vous aider à pouvoir aussi en parler à la maison. Alors en parlez vous-même avec vos parents. Parce que c'est important qu'ils le sachent, qu'ils en prennent conscience aussi. Et dans un premier temps, je sollicite vraiment les élèves pour qu'ils puissent en parler eux-mêmes. Après, je peux aussi servir de médiateur, appeler conjointement les parents, ou alors je peux aussi directement avec votre accord, du coup, appeler et mettre en lien avec vos parents. Pour qu'on puisse un petit peu voir ce qu'il en est. Donc après, c'est vrai que par rapport aux écrans, c'est important que des règles aussi soient fixées par vos parents. Donc c'est vrai que on est en train de réfléchir pour voir s'il serait possible aussi de pouvoir. Là, vous avez eu une intervention au sein du collège, mais c'est aussi peut-être réfléchir à une sensibilisation des parents autour des écrans. Voilà, parce que c'est vrai que c'est important pour vous de pouvoir les poser. Hein, donc c'est-à-dire poser son téléphone le soir avant d'aller se coucher. Donc et ne pas avoir accès à ce téléphone en fait la nuit. Et c'est vrai que pour certaines familles c'est réalisé, c'est fait, et pour d'autres familles ils n'ont pas forcément cette sensibilité ou pas forcément conséquence des risques que ça peut engendrer. Donc c'est travailler avec vous, mais aussi en essayant d'inclure aussi vos parents dans cet accompagnement.
Et à part vous, qui peut nous aider à trouver justement cette bonne limite, ce bon usage des écrans ?
Alors après, c'est vrai que du coup, au niveau des écrans, bah, du coup, il y a l'ensemble des professionnels au sein du collège hein, qui sont là aussi pour vous accompagner. Donc sur les temps au collège, sur les temps que vous passez également au CDI, les temps que vous passez également auprès des surveillants. Ils sont aussi là dans le cadre de la prévention et c'est quelque chose aussi que vous pouvez échanger avec eux.
Je constate que l'on dit aux élèves de ne pas abuser des écrans et qu'en même temps, on travaille très souvent sur les écrans. Qu'en pensez-vous ?
Alors c'est vrai qu'au niveau des devoirs qui sont demandés, vous pouvez être amené à réaliser des recherches sur Internet, mais c'est vrai que du coup, quand vous avez vos devoirs à faire, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas besoin d'ailleurs de vous connecter sur Cyber Collège parce que vous avez noté déjà vos devoirs dans votre agenda. Donc les écrans, en ce qui concerne les devoirs, sont quand même assez limités en lien avec la scolarité.
Merci Madame Chidowski d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Je vous remercie également par rapport à ce temps passé avec vous. C'était très agréable.
L'effet le plus néfaste concernant l'addiction aux jeux vidéo est le manque de sommeil.
L'importance de l'entourage pour sortir de l'addiction. Selon l'INSEE, les personnes isolées de leur entourage et de leur famille ont presque 30% de chances en moins d'obtenir de l'aide en cas de besoin que les personnes non isolées.
Vous venez d'écouter une émission réalisée par les 5e VU du Collège des Montagnes du Matin de Panissière.
Dans cette classe Web Radio, nous avons été accompagnés par Nicolas de Radio Ondaine en complément du travail de sensibilisation à l'information et à la communication de notre professeur documentaliste.
Nous avons passé une semaine d'atelier d'éducation aux médias et à l'information et nous nous sommes interrogés sur la question de l'addiction et particulièrement de la dépendance aux écrans.
Nous remercions Madame Dumas et Monsieur Lavore de la Maison de protection des familles
de la Gendarmerie nationale d'Andrézieux-Boutéon.
Ainsi que Madame Chidowski, infirmière éducation nationale, et toutes les personnes que nous avons interrogées au sein du collège. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre travail, en espérant vous avoir apporté des informations utiles. À bientôt.